Matthieu, Matthieu chapitre 3, versets 13 à 17. Matthieu chapitre 3, versets 13 à 17, d'où le thème de notre méditation de ce matin, tu es les mains et les pieds du Seigneur, au nom de Jésus. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain. Il arriva auprès de Jean pour être baptisé par lui. Jean s'y opposait et lui disait, « C'est moi qui devrais être baptisé par toi et c'est toi qui viens à moi. » Mais Jésus lui répondit, « Accepte qu'il en soit ainsi pour le moment, car c'est de cette façon que nous devons accomplir tout ce que Dieu demande. » Alors Jean accepta. Dès que Jésus fut baptisé, il sortit de l'eau. Au même moment, les cieux s'ouvrirent pour lui. Il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et une voix venant des cieux déclara, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Je mets en lui toute ma joie. » Amen. Ah, ce petit bout de texte, rien que 5 versets, je vous assure, nous pourrions passer des heures et des heures là-dessus et faire des dizaines et des dizaines de prédications différentes avec. Nous pourrions par exemple aborder un dimanche la question de la Trinité rien qu'avec ces 5 versets, qui est bien mis en exergue le Père, le Fils et le Saint-Esprit, toute une étude biblique, tout un enseignement biblique. Mais aussi, un autre dimanche, nous pourrions parler rien que sur le Saint-Esprit qui est venu ce jour-là, en apparence d'une colombe. Son retour après l'annonce de l'ange Gabriel, rappelez-vous, c'est à ce moment que l'ange, le Saint-Esprit, pardon, revient en scène. Après l'annonce de l'ange Gabriel qui avait annoncé que Marie enfantera Jésus par l'œuvre du Saint-Esprit. Donc, rappelez-vous bien le moment de l'annonce où Marie enfantera Jésus, et ce n'est que maintenant qu'il revient, comme s'il confirmait, voici l'enfant que j'avais promis. Un autre dimanche, un grand point que la plupart des prédicateurs prêchent tous, dès qu'ils abordent ce texte, bien sûr, c'est le baptême. Avec tous les débats qui vont avec immersion, aspersion, adulte ou enfant, tout ce que vous voulez, tout un enseignement. Et enfin, un point qui est fréquemment aussi abordé et qu'on parle beaucoup dans les méditations sur ce texte, c'est le type de relation qu'il y avait entre le Christ et son Père. Là, on voit une intimité profonde que le Fils avait avec son Père. Voici mon Fils bien-aimé. Voilà quelques exemples. Il y en a tellement d'autres, mais je me limite à ça. Mais comme vous me connaissez bien, certains d'entre vous, je suis un peu du genre de celui qui veut encore pousser les limites, aller encore plus loin, aller un peu plus en profondeur dans la réflexion. Je ne vais même pas choisir une parmi ces lignes mentionnées ci-dessus. Je vais vous parler de l'état, en tout cas c'est ce qui m'a parlé à moi en préparant cette prédication, l'état ou la position de Jésus vis-à-vis des personnes qui étaient là. N'oublions pas la masse qui était présente. Et la position de Jésus vis-à-vis de Jean-Baptiste, et la position de Jésus vis-à-vis du Père et du Saint-Esprit. C'est sa position qui m'a frappé, en tout cas dans ma lecture personnelle. Dans le texte, il est dit, Jésus a fait tout un déplacement de la Galilée vers le Jourdain pour rencontrer Jean-Baptiste. Et il faut se remettre dans le contexte, il a entrepris une marche vers ce baptiseur. Tout le monde affluait vers Jean-Baptiste, c'était, on va dire, la star de l'époque, du moment. Tout le monde affluait vers Jean-Baptiste, car il était devenu un personnage public incontournable, connu de tout le monde, et même craint par l'autorité juive et l'autorité romaine. Il y avait aussi des soldats romains qui étaient présents lorsque Jean-Baptiste prêchait dans le désert. Tout le monde était réuni autour de cet ermite qui s'appelle Jean. Alors, et là, on voit un Jésus qui sort de notre imaginaire, qui s'inscrit dans le mouvement général de la masse. Il fait partie de la foule. Il n'était pas un invité d'honneur. Il fait partie de la masse. Il se fond même dans le décor. Personne ne savait qu'il était déjà là. Et Jean le détectait. Il y a quelqu'un parmi vous ici. Même lui, il ne le savait pas. Donc, vous voyez, il s'est caché peut-être. Mais c'est cette position de Jésus-là qui m'a interpellé. Il ne le surplombe pas, ni se met en évidence par rapport aux autres. Il était au milieu des siens. Dieu avec nous. Vous voyez, le Dieu avec nous, il ne se met pas en valeur, il se cache. Il attendait son tour comme tout le monde. Vous imaginez le Fils de Dieu qui fait la file comme s'il allait au magasin. Il attendait son tour pour recevoir le baptême de Jean. Et je précise bien le baptême de Jean et non son baptême. Jésus n'a pas besoin d'être baptisé. Il n'est pas pécheur. Et donc, il se met dans une position de réceptacle. Il reçoit quelque chose comme s'il n'avait rien. Il ne vient pas en force ou en celui qui va apporter quelque chose. Hé, les gars, écoutez, c'est moi le Messie. Je vais vous enseigner le royaume de Dieu. Vous avez entendu dans Ésaïe tout à l'heure, il ne va pas élever sa voix tout bas, même silencieux. Il est venu avec les mains vides pour recevoir ce jour-là tout. Il est venu avec les mains vides pour recevoir tout. Et c'est quoi ce tout ? L'ordre de mission. Il recevait la mission elle-même et la nomination. Voici le Fils bien-aimé. Donc il attendait même le timing du royaume de Dieu qui était ce jour-là. Il est venu en Jésus, fils de Joseph et de Marie, en Jésus cousin de Jean-Baptiste, puisque Jean-Baptiste était son cousin. Mais après le baptême, il est reparti en Jésus-Christ, loin de Dieu, le Père, pour sauver le monde. Voilà la scène devant nous. Et d'ailleurs, cette séquence entre Jean-Baptiste et Jésus, là, a suscité beaucoup de débats sur le fait que certains exégètes, théologiens, protestants, je le souligne bien, protestants, parce que parfois les protestants font aussi des bêtises, plus même. Certains exégètes protestants ont lu dans ce récit-là en disant que ce n'est qu'à ce moment que Jésus est devenu le Christ. Donc il y a un jeu de mots. Donc cette lecture-là est dangereuse, car c'est comme si Jésus avait connu une sorte d'évolution en identité. Il n'était pas Dieu avant, mais après il a reçu un pouvoir magique, le Saint-Esprit, et il est devenu Dieu. C'est une hérésie. Mais rappelons-nous de notre thème la fois passée, le mystérium dimanche passé, le secret et a été révélé le jour. C'est là que Dieu a enlevé le mystère. Il était déjà Dieu, mais le moment de la révélation n'était venu qu'au moment de Jean-Baptiste. Et donc notre texte d'aujourd'hui est toujours dans cette continuité-là. Ce baptême de Jésus était le jour J, grand J, on va dire, pour révéler qui est réellement ce Jésus, fils de Joseph le charpentier, fils de Marie, qui n'a pas été connu de personne. Personne ne le connaissait jusqu'à ce moment où Jean-Baptiste l'a pointé du doigt. Ensuite, une fois, face à Jean-Baptiste, il est dit qu'il s'est laissé faire. Regardez le verset 15, on va relire le verset 15. Mais Jésus lui répondit, « Accepte qu'il en soit ainsi pour le moment, car c'est de cette façon que nous devons accomplir tout ce que Dieu demande. » Alors Jean accepta. Il n'est pas face à Jean-Baptiste en tant que chef et en celui qui dicte ce que Jean-Baptiste doit faire. Il se comporte tout à fait exactement comme au moment de sa circoncision. Rappelez-vous, quand Jésus a été emmené dans le temple, un tout petit bébé de 8 jours, et Siméon l'a pris dans ses bras pour être circoncis. D'ailleurs, regardez la similitude entre circoncision et baptême. qui est synonyme de baptême, la circoncision pour entrer dans l'alliance de l'Éternel, et le baptême qui fait partie du royaume de Dieu. Ce n'est pas par hasard tout ça. Tout est calculé millimètre près. Et la cerise sur le gâteau, comme on dit, cette voix qui vient du ciel avec le Saint-Esprit, qui s'est reposée sur Jésus, Jésus à genoux, c'est une scène très forte, hein, à genoux, comme s'il recevait quelque chose, qui reçoit le Saint-Esprit sur lui et le parle, et le montre du doigt, « Voici mon Fils bien-aimé, c'est en lui que j'ai pris plaisir. » Ça veut dire qu'il est le Fils bien-aimé parce qu'il est le Fils obéissant. Il a accepté la mission qu'il a reçue lors de son baptême. Le jour où Jésus a accepté le baptême de Jean-Baptiste, il a signé son arrêt de mort. Vous avez compris? Il a signé, oui Père, j'accepte de mourir sur la croix. C'est fini, il ne peut plus faire marche arrière. C'est pour ça que le Père l'a glorifié ce jour-là. Vous imaginez, le Père voit déjà son Fils mort à la croix le jour où il acceptait de boire la coupe amère. C'est pour ça qu'il a dit, c'est mon Fils bien-aimé. Voilà toute la symbolique. Bref, Jésus se présente ou se manifeste dans une position passive et non active. Il n'est pas en position de force. Et c'est cette image-là qui m'a frappé en préparant cette méditation. Pourtant, il ne faut pas oublier que tout a commencé à partir de ce baptême. Une sorte de prise de fonction solennelle, ou une investiture, ou une installation, c'est l'installation du Christ en tant qu'agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ça veut dire quoi? L'agneau de Dieu qui va être sacrifié et tué. Quelle drôle d'installation. Quelle drôle d'intronisation. Non pas en grande pompe, comme on a l'habitude de voir dans la vie de tous les jours. Rappelez-vous un roi qui prend officiellement son titre de roi, je vous assure. Tout le monde entier sera invité. Toutes les chaînes télévisées, presque la totalité de toutes les têtes couronnées viennent pour faire honneur à ce roi. Mais là, c'est différent. Les invités, c'est la populace. Les gens simples. Oh, dans le désert, pas dans le temple. Dans le désert. La scène était comme au moment de la nativité, rappelez-vous. Le Christ naît, il n'y avait que des bergers et les rois mages. Et le ciel, bien sûr, qui témoignait la naissance du Messie avec les anges. Et ici, une fois de plus, le ciel est là. Mais cette fois-ci, ce ne sont plus les anges qui témoignent l'enfant, mais le Père et le Saint-Esprit. Il est écrit dans Jean chapitre 8, versets 17 et 18. Dans votre loi, il est écrit que le témoignage de deux hommes est vrai. Moi, je me rends témoignage à moi-même et le Père qui m'a envoyé me rend témoignage. Encore une fois, comme je l'ai dit la fois passée, Jésus se plie à la loi humaine pour légitimer sa mission. Et c'est pour cette raison qu'il a dû passer par Jean-Baptiste, car tout le monde reconnaissait l'autorité prophétique de Jean-Baptiste, même les pharisiens. Il y a une foule innombrable de témoins qui confirment et qui légitiment le statut de Messie de Jésus. Ma question alors est la suivante. Est-ce que Dieu aurait besoin de légitimer son Fils à travers des êtres humains comme toi et moi? Est-ce que sa propre déclaration ne suffirait-elle pas? Pourquoi Dieu avait besoin de l'aval des humains? Dieu, il est Dieu, il peut décider tout seul. Pourquoi il doit passer par Jean-Baptiste? Tous les récits qui racontent, par exemple, que Marie et Joseph, c'est pas juste pour remplir les pages de la Bible, Marie et Joseph qui devaient s'inscrire dans le registre de l'Empire, faire passer devant tout le monde le Fils de Dieu aussi qui s'inscrit dans la loi de l'homme. Faire passer avant lui Jean-Baptiste pour annoncer le Fils de l'homme. Toutes ces démarches dans la Bible, c'est dans l'intérêt de l'homme et non pour lui. Dieu n'a pas besoin de ça, mais pour nous. Il n'a pas besoin de cela, mais c'est pour situer historiquement parlant quand le salut a été réalisé et où toutes ces histoires se situent. Notre religion n'est pas une mythologie. Notre religion, elle est historique. Jésus est à la fois historique et aussi spirituel. Et tous ces textes que nous avons juste après Noël, jusqu'aujourd'hui, s'inscrivent toujours dans le cadre de la période de Noël, insistant, impliquant en profondeur ce qu'implique, ce que ça veut dire l'incarnation. Une foi qui est ancrée dans l'histoire, dans la vie de tous les jours, dans la réalité quotidienne, dans le concret. Voilà notre foi chrétienne. Même si on essaie de nous dire « la foi chrétienne fait partie de sphère privée », la foi chrétienne fait partie du quotidien. Et notre texte montre que le plan divin qui vient du ciel, un plan qui a de la hauteur, quelque chose de très vertigineuse, vient à notre rencontre, à notre niveau plat et bas. Alors il est vrai qu'autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant les voix de Dieu sont élevées au-dessus de nos voix et ses pensées au-dessus de nos pensées. Et c'est pour cette raison que Dieu emprunte un être humain comme Jean-Baptiste. Dieu emprunte notre langage. Dieu utilise notre façon de faire, même s'il peut s'en passer. Dieu utilise nos pratiques, nos mots, tout ce que nous avons, afin que nos amis, notre entourage, puissent capter et voir les réalités célestes. Tu es l'écran du ciel. Les gens ne sauront pas qui est ce Dieu là-haut. Ils vont voir Dieu à travers toi. Ta façon de parler, ta façon d'agir, ta façon de vivre avec tes voisins, dans ton travail, à l'école, à l'université, dans tous les jours. Dieu sera projeté dans ta vie. Et nous serons comme une sorte d'écran qui pourrait faciliter la visibilité aux gens ce que c'est que le royaume de Dieu. Dans d'autres versions, cette scène du baptême de Jésus, à part le livre de Matthieu, il est dit que les gens qui étaient autour de Jésus n'avaient rien entendu. Ils avaient entendu juste le tonnerre lorsqu'il sortit de l'eau. Or, Jean avait bien reconnu la voix et c'est Jean qui a fait la traduction. C'est Jean qui a fait la translitation, c'est-à-dire, et bien entendu, c'est la voix du Père qui dit « Voici mon Fils bien-aimé ». Mais les autres ne l'ont pas entendu ainsi. Et d'ailleurs, c'est grâce à lui que nous avons eu ce qui a été dit ici dans le texte, c'est grâce à Jean-Baptiste. Donc, cette histoire nous fait aussi rappeler le moment, rappelez-vous, où le peuple d'Israël voulait entendre la voix de l'Éternel. Il disait « Moïse, on en a marre que tu nous parles au nom de l'Éternel. Nous voulons l'écouter, nous voulons l'entendre directement ». Moïse a dit « Ok, je vais lui en parler. » Et Dieu a dit « Préparez-les, je vais venir. » Et qu'est-ce qu'ils ont entendu ? Tremblement de terre, un bruit assourdissant, or c'était la voix de Dieu. Et oui, ce n'est pas facile d'entendre la voix de Dieu. C'est pour ça que Dieu se plie et ils acceptent d'envoyer des hommes pour parler à sa place. C'est-à-dire toi et moi. Veux-tu être son ambassadeur ? Veux-tu être le traducteur du ciel ? Le langage du ciel inatteignable ? Dieu accepte de passer par toi qui n'es que poussière pour que ta famille puisse comprendre ce que c'est que le royaume de Dieu, pour que ton entourage sache qui est Jésus, ce Jésus qui fait peur parfois à certains. Et voilà, alors sois la bouche de Dieu, sois les pieds de l'Éternel. Sois les mains du Seigneur. Amen.